Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Dans le dernier quart du 19e siècle, la destruction du vignoble français par le phylloxéra, ce minuscule puceron qui s'attaque aux racines de la vigne, est à l'origine d'une crise très grave dont les répercussions économiques, techniques et sociologiques sont considérables. Jean-François Bazin, de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, membre de la Conférence nationale des académies sous l'égide de l'Institut de France et auteur de nombreux ouvrages de référence sur la vigne et le vin, est avec nous pour évoquer l'histoire de la lutte longtemps indécise et menée avec acharnement pendant près de 30 ans contre le phylloxéra de la vigne en France. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie.
Mais c'est bien normal.
Certes, le monde viticole a déjà connu des crises dues à un insecte ou à un champignon, mais c'était des crises temporaires et locales. On avait fait appel alors à des savants, et ça c'était nouveau, pour trouver des moyens de lutte efficaces contre les attaques de la pyrale ou de l'oïdium, pour ne parler que de ces deux derniers parasites. Mais, monsieur, rien ne laissait prévoir vers 1860 que la viticulture, alors florissante et même en pleine expansion, est à la veille d'un véritable bouleversement qui va mettre en cause son existence même. Mais ce bouleversement, quelle est son origine? D'où vient cette nouvelle maladie arrivée en France?
Cette maladie, d'abord, n'a pas de nom. On l'appellera phylloxéra, de deux mots grecs. Je ne ferai pas l'injure de vous dire que ça veut dire feuille et que ça veut dire sec. Donc, le pied de vigne séchait et mourait. On a mis pas mal de temps, enfin du moins plusieurs années, avant de reconstituer le phénomène et de découvrir qu'il s'agissait d'un puceron qui fait un demi-millimètre de longueur, mais qui est très visible avec une loupe. Enfin, c'est pas difficile de voir un phylloxéra. Un puceron, un insecte qui est suceur, c'est-à-dire qui suce les racines essentiellement, mais aussi les feuilles de la vigne, pour la faire mourir. Et c'est en 1865, à Pujaut, dans le Gard, c'est généralement ce que disent les historiens, que pour la première fois, on a découvert la maladie, mais sans l'expliquer, sans même lui donner un nom. Il a fallu un certain temps pour comprendre que cet insecte était très complexe. C'est un insecte qui est à la fois ailé
et souterrain.
Il propage ses œufs à des kilomètres à la ronde, surtout sur les vignes. Il y a aussi un phylloxéra du poirier, un phylloxéra du chêne, mais enfin, c'est surtout la vigne qui en souffrait. Et d'essayer de comprendre, parce qu'en Angleterre, au même moment, on avait fait les mêmes découvertes, à Genève, chez les Rothschild aussi. Et on a fini par comprendre que ce puceron était d'origine américaine, mais sur la côte Est, il n'existait pas sur la côte Ouest. Sur la côte Est, et ce qui va être très important pour la suite, il ne tuait pas la vigne américaine, parce qu'il y a une vigne naturelle aux États-Unis, une vigne indigène, sous plusieurs noms, et cette vigne s'était habituée, finalement, au phylloxéra. On verra tout à l'heure, peut-être, que ça a eu une importance considérable par la suite.
Mais alors, comment en est-on arrivé à faire le lien, justement, entre le dépérissement de la vigne dont vous parlez, et puis les boutures et les plants racinés importés du Nouveau Monde? Parce qu'il y avait pas mal d'échanges.
Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'échanges, souvent d'ailleurs pour les meilleures raisons du monde, des raisons académiques, des raisons scientifiques, c'est-à-dire des Américains qui envoyaient des cépages américains à un jardin botanique, à Cologne, en Allemagne ou à Londres. Ça s'est fait comme ça. Et on a fini par décomposer le phénomène en s'apercevant que là où le phylloxéra se développait tout de suite, eh bien c'était à la suite d'arrivées de plants, soit à des privés, qui avaient voulu essayer de tester des cépages américains ou des jardins botaniques, des institutions.
Donc le phylloxéra n'était pas du tout connu en France?
Il n'existait probablement pas. D'ailleurs, dans le monde entier, il n'existait pas, puisque à partir des années 1860, il va se développer dans toute la France, dans Bordelais, en Bourgogne, enfin, oui, toute la France en quelques 15 ans, parce que ça avançait par vagues successives de 30 km à peu près chaque année. Mais on le retrouve au même moment en Allemagne, en Suisse, on le trouve en Italie, on le trouve même en Australie ou en Mandchourie. Ça a été véritablement une invasion, par le chemin de fer d'ailleurs. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il est arrivé en Californie. C'est quand on quand on a fait le premier chemin de fer, eh bien, il a apporté le phylloxera en Californie où il n'existait pas.
Alors en France, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dans le département du Gard que ça a été la première fois reconnu. Et c'est le midi méditerranéen qui est le plus sinistré subitement et qui va être en fait celui qui va être à la point de départ de toutes les expérimentations futures.
Oui, notamment à Montpellier où une université très spécialisée dans tous les problèmes vitivinicoles, notamment le professeur Planchon, Jules Planchon, qui a d'ailleurs baptisé cet insecte Phylloxera vastatrix.
Oui, on doit beaucoup à beaucoup de savants, que ce soit...
Oui, il y a eu une mobilisation des esprits. L'État s'en est évidemment soucié parce que c'était une... Je vais vous donner un autre exemple qui est assez curieux, qui montre que les esprits étaient loin d'être sots. Le PLM, c'est-à-dire la compagnie de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille, a très vite compris que s'il ne pouvait plus transporter de vin, s'il n'y avait plus de vignes, il n'y aurait plus de vin, et s'il ne pouvait plus transporter, il perdrait beaucoup de ressources, car il transportait beaucoup de vin. Et il a créé, ce qui était étonnant pour une compagnie de chemin de fer, une ferme expérimentale pour essayer de trouver la solution de l'élimination du phylloxera. C'est la ferme des Poisses. Avouez que c'était tout de même extraordinaire de voir une compagnie de chemin de fer se préoccuper de guérir une maladie de la nature pour que ces produits continuent de circuler par le chemin de fer.
C'est dit l'importance du vignoble dans l'économie française.
C'est vrai.
Tout à l'heure, hors antenne, vous aviez parlé de Jefferson, parce que je reviens un tout petit peu aux États-Unis. Disons que Jefferson, on était au tournant du 18e et du 19e, veut planter des vignes françaises
chez
lui, à Monticello, mais effectivement, ça ne marche pas.
Ce n'est pas la seule expérience, mais c'est peut-être la plus célèbre. Ça n'a pas marché et il ne l'a pas compris pourquoi la vigne américaine poussait. C'est-à-dire qu'il pouvait cultiver des cépages américains, mais qu'en revanche... Il ne pouvait pas importer des cèpes des meilleurs vignobles d'Allemagne ou de France ou d'autres pays encore comme l'Italie. Et en réalité, c'est parce que le phylloxera s'attaquait déjà. Mais Jefferson ne l'a pas compris et ce n'est que vers le milieu du 19e que des savants américains ont d'abord identifié le puceron, lui ont donné un nom, un autre nom encore, aux États-Unis. Et en l'identifiant, on a remonté finalement l'explication de savoir pourquoi la vigne poussait aux États-Unis et, en revanche, les cépages européens n'y poussaient pas.
Alors, les méthodes de lutte sont l'objet de polémiques parce qu'il faut dire que le problème était complexe. Vous avez dit, c'est un insecte qui est souterrain et aérien, donc ça fait beaucoup de chemins compliqués à détecter. Et il y a des partis pris, il y a les sulfureux, les submersionnistes et les américanistes.
Oui, il faut comprendre que quelles étaient les possibilités qui s'offraient. D'abord, il fallait arracher la vigne. Et le problème, c'est que c'est une culture pérenne. C'est-à-dire qu'il faut en principe la faire reposer pendant un an ou deux, et puis ensuite attendre 3 ans, la troisième feuille, ou 4 ans pour avoir une récolte, et puis 10 ans pour avoir une bonne récolte. C'est dire à quel point seuls les viticulteurs qui avaient un certain pouvoir financier étaient capables de replanter.
Les grands propriétaires.
Les grands propriétaires surtout. Soit il y a eu une proposition faite par le baron Thénard, qui était un chimiste célèbre, qui a proposé l'emploi du sulfure de carbone. C'était une espèce de grosse seringue. Alors, c'était les sulfureurs. Les vignerons qui étaient d'accord avec cette idée, ils traitaient avec cette seringue et on enfonçait le produit, c'est un produit abominable d'ailleurs.
Ouais, pas du tout écolo.
Pas du tout écolo, ça c'est sûr. Et on l'enfonçait au pied du cèpe et en principe, cela guérissait le cèpe. Ça avait un certain effet. Alors, le procédé du baron Thénard était relativement efficace, mais il était très difficile. Il fallait que l'homme et la femme, il y en a un qui bouchait, il y en a un qui enfonçait le produit dans le sol. C'était très lourd, c'était toxique. Enfin bref, il y a probablement beaucoup, notamment de femmes, qui sont mortes à la tâche. Donc il apparaissait difficile de traiter, et puis c'était coûteux, tout le vignoble. Alors il y avait une autre solution, mais elle ne concernait que les vignobles qui étaient près de la mer, donc des vignobles qui avaient généralement une qualité inférieure. c'était de la submersibilité.
Près de rivières.
Oui, de rivières ou de la mer Méditerranée, d'inonder les vignes. Et le phylloxéra, en effet, ne résistait pas à une inondation. C'était une deuxième solution. Puis la troisième, il y en avait bien une troisième, indépendamment de changer de culture. C'était d'importer des pieds américains, ce qu'on appelait les directs ou les hybrides. Il y a eu des hybrides aussi, qui sont maintenant interdits. Parce que comme ils résistaient naturellement au phylloxéra, on disait, ben voilà, la solution, c'est d'abandonner nos cépages traditionnels, français, et puis de planter des cépages américains, puisqu'ils vont résister et donc ils vont produire. Certains l'ont fait, d'ailleurs. Vous vous rappelez ce qu'on pouvait dire des cévins américains, cévins directs qui...
Foxés,
qui sentaient le renard, enfin, qui renardaient et qui, par ailleurs, rendaient fous dans certains cas. Hein. On a dit que certains de ces directs étaient très dangereux. C'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs été interdits.
Oui, mais c'était très difficile d'imaginer que les plants américains seraient le remède alors que c'est eux qui avaient apporté le mal. Il fallait une réflexion, une expérimentation faite aussi dans les laboratoires et aussi sur le terrain, parce qu'il fallait des savants et des expérimentateurs.
Naturellement. Il ne faut pas oublier aussi que la greffe n'existait guère en matière viticole. Si on prend la Bourgogne, elle ne greffait jamais. Et il a fallu faire venir des moniteurs du Midi.
Des écoles de greffage.
Il y a eu des écoles de greffage, il y a eu des diplômes de greffage. Ben, naturellement, ce qui est aussi intéressant dans ce drame, c'est que pour la première fois depuis peut-être l'Antiquité, les pères n'avaient plus rien à apprendre à leurs enfants. Le jeune vigneron n'avait rien à apprendre du grand-père et du père, puisqu'il ne greffait pas. Et par ailleurs, ils étaient plutôt sceptiques, ils pensaient qu'on ferait jamais un vin aussi bon
qu'avant,
parce que c'était des pieds américains, des porte-greffes américains. Et qu'est-ce que les Américains allaient nous apprendre en matière de grands vins, de Château Margaux ou de Chambertin? Et en fait, on s'est aperçu qu'au bout de quelques années, on faisait un vin, sinon le même, peut-être même meilleur. C'est dire qu'on a pu sortir de cette impasse avec un procédé qui était écologique avant la lettre, puisque le porte-greffe est un phénomène naturel et il ne fait appel à aucun produit chimique, à aucun produit phytosanitaire. Au lieu du sulfure de carbone, on a trouvé le moyen de guérir par la nature, ce qui était quand même assez extraordinaire.
Aussi, il y a des endroits où, dans le sable, le phylloxéra ne prolifère pas.
Bah, c'était un peu le cas des endroits très maritimes. Le sable, et puis souvent le sable mouillé, c'est-à-dire en fait dans des endroits qui étaient proches de la mer, soit les vignobles de l'océan, soit les vignobles de la Méditerranée.
Ces plants nouveaux, ces porte-greffes, ils sont venus des États-Unis. Il va falloir aussi qu'ils s'adaptent au milieu, à la nature du sol français. Et ça, c'est pas facile parce
naturellement, les empélographes, c'est-à-dire les gens qui sont spécialistes des cépages, ont beaucoup travaillé et fait beaucoup d'expériences. Alors le problème, c'est que les expériences, ça demande plusieurs années avant apprécier avec des échecs, des succès. Mais on ne le sait pas le lendemain. Parce qu'il a fallu croiser des cépages américains et puis tenir compte d'un terrain argileux, d'un terrain plus calcaire, tel ou tel type de terrain qui nécessitait le recours au riparia, au solonis. Enfin, vous avez parlé tout à l'heure des américanistes et des sulfureurs, mais il y avait aussi ceux qui étaient pour le solonis, ceux qui étaient pour le riparia. Mais dans la deuxième phase, c'est-à-dire après les traitements, ça a duré quand même 3-4 ans, et avec un sentiment assez curieux parce que l'exemple des vignobles du centre et de l'est et du nord de la France. Ils disaient entre eux, mais ça c'est des histoires du Midi. Ça arrive que dans le Midi, parce qu'ils ne travaillent pas là-bas. Naturellement, je n'adhère pas à cette idée. Mais c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient, oh ben oui, mais naturellement, le phylloxéra c'est dans le Midi. Mais chez nous, il ne viendra pas. Alors qu'il montait de 30 km chaque année. Alors ça a été un phénomène curieux et qui a aussi divisé les esprits. Parce que quand l'État a décidé les traitements par le sulfure de carbone dans un premier temps, et avec des primes, des aides financières, des syndicats qui se sont formés, des syndicats de viticulteurs. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient contre. Et il a fallu parfois faire venir l'armée pour traiter d'office ce que les gens ne voulaient pas traiter.
Il faut dire que le pari était tel que ça pouvait engager des conflits.
C'est sûr, ça a été une période très tendue dans l'histoire nationale. Et elle a été très coûteuse aussi, mais on dit que ça a coûté autant que la guerre de 70, parce que ça a ruiné beaucoup de gens. Il y a eu tout de même un côté positif, c'est que finalement on a replanté que les meilleurs terroirs. L'exemple de la Bourgogne le montrait. Pratiquement, il y avait 40 000 hectares de vignes en Côte d'Or, il n'y en avait plus que 7 à 8 000 après. Mais c'était sur les meilleurs terroirs, alors qu'avant on faisait du vin partout, dans tous les villages, quel que soit le climat, quel que soit le terrain. parce qu'on avait besoin d'avoir du vin à boire chez soi. C'est dire à quel point, finalement, la viticulture post-phylloxérique a été une viticulture infiniment mieux choyée qu'elle ne l'était avant.
Je pense particulièrement aux Charentes et à la région de Cognac, qui ont souffert du porte-greffe initial américain, qui ne supportait pas en fait le calcaire et qui développait une chlorose périque. Donc eux, ils ont eu une étape en plus pour replanter. Ils ont perdu de nouveau la première production des premiers porte-greffes parce que le porte-greffe en question ne convenait pas au terrain calcaire. Alors eux aussi ont particulièrement souffert.
Je crois que tous les vignobles ont souffert. D'ailleurs, d'une certaine façon démocratique, si l'on peut dire, puisque finalement, les grands crus et les vignes les plus modestes ont toutes eu le phylloxéra. C'est un phénomène qui est apparu partout en France avec les mêmes résultats. Donc c'est vrai que la Charente et le Cognac ont souffert, mais je ne sais pas si on peut dire que vraiment une région a été moins bien traitée qu'une autre. Je crois que le drame, il a été absolu partout.
Sauf que quand même, dans les départements du Midi méditerranéen, comme ils étaient les premiers touchés, ils ont été les premiers à faire des expérimentations et que petit à petit, au fur et à mesure que Phylloxera montait dans les départements septentrionaux, il y avait déjà des solutions qui étaient proposées.
Oui, il est vrai que lorsque le Phylloxera est apparu, il a fallu au moins une dizaine d'années pour commencer à le comprendre et à commencer à réagir véritablement contre lui par le traitement au sulfure de carbone dans un premier temps. Et après, bien sûr, il était plus facile d'affronter le mal quand on savait son origine. Mais je vous l'ai dit, les esprits étaient assez fermés. Et en Champagne, en Bourgogne...
Même méprisant
un peu. Oh oui, pensaient que c'était une affaire du midi. Et par ailleurs, comme ceux qui souffraient dans un deuxième temps, c'est-à-dire les vignobles du septentrionaux, étaient concurrencés par ceux qui avaient déjà replanté ou qui étaient déjà sortis du problème, notamment dans le Gard, le midi, et puis il y a eu l'Algérie aussi. Beaucoup de vin est arrivé comme ça, et alors ces vignerons septentrionaux avaient le sentiment qu'ils souffraient deux fois. Et puis, puisque finalement, eux, le mal leur tombait sur le dos, alors que les autres, eux, en sortaient et pouvaient remplacer le vin par le leur. C'est-à-dire que sur le plan commercial, ça n'a pas été facile non plus.
Oui, donc vous aviez dit tout à l'heure que la superficie du vignoble a diminué, la production du vin, évidemment, ça fait une évolution analogue.
Oui, une évolution qui est qualitative, mais il ne faut pas oublier qu'on sortait tout juste de ce drame quand est arrivée la guerre de 14, qui a tué un homme sur 10 et souvent laissé les vignes à l'abandon. C'est dire que la vigne commençait à reprendre souffle vers 1900-1910, sauf que l'année 1910 était une année abominable qui a été une année sans récolte. Mais on recommençait à prendre espoir en France. Et puis la guerre est arrivée et là, ça a été un cataclysme.
Oui, et une autre des conséquences aussi, parce que je pense aux entrepôts, c'est qu'en fait, on a perdu en France une partie des marchés d'exportation au moment de la crise du phylloxéra au profit de ceux d'Italie et d'Espagne. Donc il y a eu forcément une perte d'échanges internationaux.
Oui, il y a eu une perte d'échanges internationaux, mais la plupart des pays européens étaient touchés. Ce qui fait que l'Italie a été touchée, l'Espagne a été touchée, le Portugal aussi pour le Porto, l'Allemagne aussi, pour les vins du Rhin, de Moselle. On peut dire que le phénomène a été assez général. Je ne pense pas qu'il y ait eu un phénomène économique de ce type. En revanche, c'est le phénomène global qu'il faut analyser. Sur les exportations, évidemment, si l'on ne produisait plus, on ne pouvait plus exporter.
Oui, le problème, c'est que je comprends bien, si on ne produit plus, on ne peut plus exporter, mais c'est qu'on perd des marchés. Mais heureusement, la qualité du vin français fait qu'on les retrouve. Ces échanges-là, on les retrouve après.
Oui, on a naturellement retrouvé des marchés d'exportation, mais avec des périodes très différentes. Par exemple, les Américains ne buvaient pas de... D'abord, il y avait la prohibition, puis ensuite ne buvaient pas de vin jusqu'en 1950. Et lorsqu'ils se sont mis à boire du vin, du moins un certain nombre d'entre eux, les exportations aux États-Unis sont montées en flèche. Le Japon ne buvait pas de vin, c'était pas du tout dans sa culture. Lorsque dans les années 70-80, le Japon a commencé à boire du vin, les exportations ont bondi. Et pour l'instant, c'est le phénomène chinois.
Les Chinois se mettent à boire du vin.
Oui, bien sûr, parce que non pas que ce soit dans leur culture, parce qu'ils buvaient plutôt du cognac pendant le repas, mais c'est bien sûr une façon de s'adapter à la société occidentale, européenne, des gens qui ont des moyens, du goût. Enfin, c'est une façon de s'européaniser de façon peut-être plus agréable qu'en retournant à l'école.
Je pense aussi au bouleversement sociologique dont vous avez commencé à parler tout à l'heure, les petits viticulteurs qui doivent abandonner leurs terres ou qui se lancent dans des cultures de remplacement ou qui parfois s'exilent en Argentine, en Algérie, mais ils vont être attrapés par le phylloxéra, les pauvres.
Oui, oui, bien sûr.
Et puis, donc, de ce fait, les grands propriétaires qui agrandissent leur exploitation parce qu'ils rachètent les petites exploitations abandonnées. Et puis aussi, le fait que les campagnes connaissent de nouveaux modes de culture, de viticulture et peut-être même de vinification, parce que tout ceci, c'est la théorie des dominos.
Naturellement, lorsque la replantation s'opère, c'est-à-dire selon les années, à partir des années 75, 80, puis 90, on va souvent palisser, ou en tout cas créer des rangs de vignes. Avant, la vigne était plantée en foule, en désordre. On va donc palisser, ou en tout cas, s'il n'y a pas palissage, il y a un rang de vignes. Et à partir de ce moment-là, le cheval va pouvoir entrer dans la vigne. Et jusqu'à présent, il ne pouvait pas y entrer, il n'y avait pas de chevaux. Donc les travaux se faisaient tous à la main. À partir du moment où la charrue arrive, à partir du moment où le cheval arrive dans la vigne, le travail de l'homme en est simplifié, en est facilité. Parce qu'avant, il fallait qu'il ait son faisceau, sa petite pioche, et puis qu'il s'occupe, qu'il jardinait. Tandis que là, le cheval tirant la charrue, c'est tout de même beaucoup plus facile, si on peut dire, pour l'homme, dans le travail quotidien. Et ensuite, le rang de vigne lui-même va voir apparaître des technologies de plus en plus développées, jusqu'au motoculteur actuel ou tracteur enjambeur. Et paradoxalement, un demi-siècle plus tard, on voit réapparaître le cheval, c'est le dernier chic, le dernier cri.
Ça, c'est bien pour l'écologie.
De reprendre, mais absolument. Parce que ça permet de ne pas enfoncer la terre, ça permet de la labourer de façon plus souple, plus discrète. Si vous voulez, beaucoup de grands domaines actuellement reviennent au cheval. Alors qu'on pensait dans les années 50, 1950, que le cheval s'était fini définitivement. Je bois à la joie, la joie est celui où je vais toi, lorsque j'ai vu
Avant qu'on ne parle de que reste-t-il du phylloxéra dans le vignoble français, est-ce qu'il en existe encore, des vignes franches de pied, j'aurais voulu qu'on évoque le travail des femmes dans la vigne, parce que je vous ai entendu tout à l'heure parler du fait qu'elles travaillaient beaucoup, parce qu'elles ont des mains de greffeuses, de tailleuses aussi, et elles ont été, elles aussi, la société des femmes est importante dans le monde de la vigne.
La société des femmes est importante partout. Mais dans le monde de la vigne, certainement, on parlait d'ailleurs des travaux masculins, des travaux féminins, et qui se répartissent de façon tout à fait classique. La taille, la collage, enfin, ça porte des noms différents selon les vignobles. Mais la femme faisait les vendanges aussi. Enfin, elle n'avait pas le droit d'entrer à la cuverie pour les raisons que vous imaginez. C'était d'ailleurs stupide, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'œnologues femmes qui s'occupent des vinifications, et ça n'a jamais troublé un vin d'avoir une femme dans une cuverie pendant les vinifications ou dans un chai pendant les vinifications. Mais la femme, à l'exception des chais, enfin jusqu'à une époque assez récente, la femme était très souvent dans la vigne et apportait une contribution très précieuse à la vie du couple de vignerons. Oui, bien sûr. Et alors, ça a un petit peu changé avec l'arrivée du cheval, puisque l'homme a vu sa tâche facilitée par le cheval, mais en revanche, pour la femme, ça n'a pas changé grand-chose. Elle a gardé toujours les mêmes travaux d'entretien du cep, de vendange, parce que c'était souvent des femmes, des enfants qui vendangeaient. Les hommes étaient plutôt à la cuverie et, ou au chai. Et puis les femmes avec leur sécateur ou leur gousotte, leur petit couteau qui leur permet de couper le raisin.
Finalement, le phylloxéra infeste-t-il toujours le vignoble français ou même le vignoble dans le monde? Est-ce qu'il existe encore en France des vignes sans phylloxéra?
Alors, les vignes sans phylloxéra, c'est des vignes qui ont été soit traitées par le sulfure de carbone jusqu'à une période bien postérieure à la disparition de la plupart des vignes, lors de la crise du phylloxéra. Par exemple, la Romanée Conti a été replantée en 1946 seulement. Pourquoi ? Parce que ses propriétaires estimaient qu'une vigne de cette importance ne pouvait pas être greffée. C'était prendre un risque excessif. Et donc, c'est qu'en 1946, après la guerre où la vigne était en très mauvais état, parce qu'il n'y avait pas de produits pour la traiter, enfin, il y a eu évidemment beaucoup de difficultés pendant la guerre, ce qui fait qu'on l'a replantée en 1946. Mais il y a quelques autres vignes que l'on dit françaises ou franches de pied. C'est l'expression, on dit une vigne franche de pied ou une vigne française, c'est-à-dire une vigne non greffée. Il y en a dans le Tonnerrois, il y a ce qu'on appelle la vigne de l'empereur. Il y en a quelques autres en France, mais à vrai dire pas très nombreuses. Quelques tentatives ici et là, mais ça n'est pas très très important parce que le phylloxéra existe encore. Il ne peut plus nuire puisque le porte-greffe est américain et qu'il ne peut rien contre les cépages américains. Mais il existe encore, on peut retrouver, en cherchant bien, dans une vigne, on peut retrouver ces pucerons jaunes qui sont assez reconnaissables, il suffit d'avoir une loupe. Et d'ailleurs, la loupe était très importante parce qu'au début de la lutte contre le phylloxéra, on a distribué aux instituteurs des loupes. Le gouvernement avait donné une loupe à chaque instituteur, non pas pour le travail de l'école, mais pour aller voir ce qu'on appelait les taches, c'est-à-dire les endroits qui étaient l'objet d'une invasion phylloxérique, de façon pour faire un dessin sur le tableau de la classe, pour montrer quelle allure ça avait. C'est un peu une pomme de terre avec des pattes et puis des ailes pour la forme ailée. Et ensuite, savoir les reconnaître. Parce que souvent, l'instituteur dans un village vigneron était un professeur d'agronomie, enfin du moins pour les choses les plus simples. Les enfants passaient naturellement par ce que leur apprenait l'instituteur. Les instituteurs ont été très efficaces dans la lutte contre le phylloxéra.
Oui, je pense que pas eux seulement, parce qu'il y a eu beaucoup d'anonymes qui se sont engagés, parfois un peu farfelus, mais...
Oui, on a inventé toutes sortes de solutions, de les traiter avec du savon. Bon, il y a eu une multitude d'idées, souvent saugrenues et sans résultat, parce que l'État avait promis
une
récompense, qui a d'ailleurs augmenté d'année en année et qui n'a jamais été en définitive accordée. Mais une récompense à celui qui trouverait un procédé efficace. Et en fait, le seul qui ait été proposé, c'est celui du baron Thénard, qui était le sulfure de carbone. Et il est apparu décevant assez vite lorsque la greffe est apparue comme la solution d'avenir et la solution de remplacement, véritablement.
Oui, et la lutte contre le phylloxéra, avec ses moyens d'action multiples et variés, a montré une solidarité entre les couches sociales, parce que... On constate qu'il y a des sociétés d'agriculture qui se sont installées, des journaux, des revues techniques.
Oui, des syndicats viticoles, ce qui n'existait souvent pas.
Oui, c'est la nouveauté,
oui,
ça.
Oui, un phénomène associatif. L'État avait déjà, vous voyez, opéré un certain chantage et disait, vous aurez une prime si vous vous entendez. Si vous faites un syndicat, on le donnera au syndicat, la prime. On ne la donnera pas à chacun. Et évidemment, ça a aidé très fortement le phénomène.
Jean-François Bazin, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme impact de cette crise ?
Cette crise, elle est unique dans la mesure où, dans le passé, même si certains auteurs pensent qu'il s'est déjà produit des phénomènes analogues, c'est la première fois que l'on voyait mourir tout un vignoble, au plan national et dans les pays voisins, partout, en Australie, en Mandchourie. C'est un phénomène unique. On connaissait le mildiou, on connaissait le black rot, etc., un certain nombre de maladies. Mais là, il ne s'agit pas d'une maladie, il s'agit de la mort de la vigne. Assez au bout de 3-4 ans de l'invasion. Ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé le paysage, ça a changé le mode de vie, ça a changé le revenu, ça a changé l'étendue de la vigne en France, ça a changé le rapport entre les générations, ça a développé le sentiment associatif, ça a développé l'agronomie. En matière viticole, beaucoup de lycées viticoles ou d'écoles de viticulture sont nés à ce moment-là. Vraiment, ça a été un coup de semonce assez extraordinaire, parce que on ne pouvait pas imaginer que la vigne qui existait depuis 2000 ans, en tout cas en France, pouvait disparaître comme ça, sans aucune raison au départ, et après, sans aucune solution vraiment durable. Et il a fallu que, finalement, tous les esprits s'y associent, à la fois les hommes de science et, à la base, les viticulteurs, les vignerons. Croyez-moi, dans les familles, ça a été des années difficiles à vivre, parce que il fallait s'habituer à un langage qui n'était pas le langage que l'on pratiquait habituellement. Si on ne savait pas greffer, il fallait apprendre. Si on greffait et que le grand-père disait « Mais non, ça ne va jamais donner le vin qu'on avait autrefois », c'était se brouiller avec son grand-père. Enfin, vous voyez à quel point toute la société française, parce qu'elle touchait de près ou de loin à la vigne et au vin, toute la société française s'est trouvée engagée pendant 30 ans, 40 ans, hein, entre 1860 et 1910, dans ce drame, dans cette disparition de l'étendue viticole française et dans la reconstruction, puisqu'on a reconstitué le vignoble, finalement, au bout de quelques années. Mais il n'était plus le même, il n'avait plus le même visage, il n'avait plus la même étendue, mais heureusement, la qualité était restée la même.
Oui, la qualité est toujours là. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur.
Au revoir.